Radio Okapi. Oh, Okapi. Belinda Bosuma pour le journal.
Toujours pas de compromis autour du projet de loi électorale sous examen au bureau de l'Assemblée nationale. Malgré des longues discussions ce dimanche, la divergence persiste sur le seuil électoral, la caution et la machine à voter. Plus de 15 000 personnes déplacées, des centaines d'écoles fermées et des villages entiers désertés et ravagés. Voilà les conséquences de l'insécurité à Kabambar et dans le Maniema. La société civile de Bikenge, territoire voisin, tire la sonnette d'alarme. Et puis, la Croix-Rouge ferme ses portes à Kisangani après 20 ans d'activité dans cette ville. Le chef de bureau de CICR Kisangani évoque l'amélioration de la situation humanitaire. Mario Marcos est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la poursuite des négociations des députés des différents groupes parlementaires présidés par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est autour du projet de loi électorale sous examen. En dépit des longues discussions, toute l'après-midi de dimanche, la divergence a persisté sur trois points, dont le seuil électoral, la caution et la machine à voter. Il y a tout de même des avancées car la majorité a ramené le seuil à 1% au lieu de 3% proposés par le gouvernement, alors que l'opposition est restée sur sa position radical. Explication Michel Kefindangoy.
L'opposition parlementaire persiste et signe. Le seuil électoral doit être élagué du projet de loi sous examen et la machine à voter doit faire l'objet d'un consensus. Léon Mondolé, président du groupe parlementaire des démocrates libéraux.
Nous trouvons que le seuil d'éligibilité non seulement est anticonstitutionnel, mais aussi le seuil d'éligibilité va éliminer les petits partis dans la compétition électorale. Nous sommes contre ce seuil d'éligibilité et Nous demandons carrément qu'on l'enlève dans la loi.
Les députés de la majorité présidentielle qui avaient déjà ramené le seuil à 1% au lieu de 3% estiment que la position radicale des opposants témoigne de leur manque de volonté d'amener le pays aux élections. Paulin Kachongo.
Aujourd'hui, vous avez la preuve que l'opposition qui ne veut pas qu'on aille aux élections. Pour nos amis de l'opposition, il fallait qu'on arrive au 30 décembre 2017 sans loi pour qu'ils puissent dire que la majorité, par le PPRD, aura échoué.
Ces consultations initiées par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, vont donc se poursuivre ce lundi avant midi afin de dégager un consensus des députés autour de trois points qui divisent encore l'opposition et la majorité dans la loi électorale.
Par ailleurs, où en est-on avec le budget exercice 2018 des provinces? Si dans certaines provinces ce budget est en cours ou en fin d'élaboration, comme dans le Haut-Katanga et le Kwango, dans d'autres, le budget est déjà sous examen au niveau des assemblées provinciales. C'est le cas au Sud Kivu, en Ituri, au Kasaï central et au Congo central, pour ne citer que celle-là. À l'Équateur, par contre, les députés s'intéressent à l'élection du nouveau gouverneur, selon nos sources. Pendant ce temps, les assemblées provinciales de Tanganyika, de la Lomami et du Kasaï, elles, ne fonctionnent pas. Le point avec Richard Kamonga.
La suspension des plénières dans les Tanganyika et les Kasaï date de 2 mois maintenant, si l'ordre du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Pour les Tanganyika, les motifs et la motion de censure et la protestation contre le président de l'Assemblée provinciale et pour le Kasaï, la bagarre entre les députés provinciaux au cours de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire intervenue le 30 septembre. 2 mois sans plénière alors que la session ordinaire de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption du budget. Cela signifie que c'est provinces fonctionneront sans budget pour l'exercice 2018. Les députés provinciaux du Kasaï demandent à Emmanuel Chadari d'élever la mesure de suspension pour que leurs provinces soient dotées d'un budget. Les députés provinciaux du Kasaï, René Kalimba Chamboui.
Qu'on puisse au moins réouvrir les plénières, le temps qu'il nous reste, nous allons examiner ce budget et le voter et le mettre à la disposition du niveau des provinces.
Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a-t-il le pouvoir de suspendre les activités des assemblées provinciales, René Kalimba Chamboui.
D'après la constitution, les assemblées provinciales sont autonomes. Dire que nous sommes sous tutelle du ministère de l'Intérieur, non.
Et du côté de l'assemblée provinciale de Lomami, les travaux sont aussi suspendus depuis 5 jours. La police empêche tout accès à ces sites. Les députés provinciaux demandent au gouverneur Patrick Kamanda d'élever ces blocus qui retardent l'examen du projet de budget 2018.
Pendant ce temps, dans la province du Sankuru, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Charles Pongo Dimanja, à peine réhabilité par la Cour constitutionnelle, est de nouveau sous la menace d'une autre motion incidentielle. Une dizaine des députés provinciaux, sur un total de 16, auraient apposé leur signature sur une déclaration de retrait de confiance envers Charles Pongo Dimanja, une menace qui arrive alors que ce dernier venait d'être réinstallé le 30 novembre après plus d'une année de mise à l'écart et il estime s'être amendé vis-à-vis de ses pairs. Charles Pongo Dimanja, joint au téléphone par Chris Mukand.
Et je crois que j'ai appris pendant ce temps-là à voir qu'il est important de transcender certains sentiments humains. Et j'ai souhaité, plutôt que de tourner la page, que nous puissions changer carrément de livre pour ne plus se rappeler de ce passé triste dans notre histoire. J'ai demandé également des excuses publiques envers tous en vue de ne plus peut-être voir ce qu'ont été les vicissitudes de notre nature humaine, autant que, de notre côté, nous avons fait un effort de pouvoir rappeler la nécessité de s'unir. J'aimerais également dire au peuple congolais, notamment à l'opinion publique provinciale, qu'effectivement, la justice existe dans ce pays et que ces décisions ont été respectées dans la province de Sankuru et nous devons transcender nos sentiments.
Rendons-nous au Maniema. Plus de 15 000 personnes déplacées, des centaines d'écoles fermées et des villages entiers restés déserts et ravagés. Voilà les conséquences humanitaires de l'insécurité que prévaut actuellement dans plusieurs parties du territoire de Kabambar et au sud du Maniema. La société civile de Bikenge, territoire voisin où se sont réfugiés la plupart des déplacés, plaide pour une assistance urgente. Mathieu Ilunga nous en dit plus.
Les déplacés qui se sont installés à Bikenge sont venus notamment de Salamabila, Kasongo, Kabambare, Wamaza, Lusange et Babuyu. Leur arrivée a provoqué une certaine rareté de produits et une spéculation de prix sur le marché, annonce la société civile. Un gobelet de farine de manioc passe de 100 francs congolais à 150 francs congolais. Un gobelet du riz qui se vendait à 100 francs revient actuellement à 250 francs congolais et une bouteille d'huile de palme coûte à présent 1000 francs congolais au lieu de 350 francs congolais. Quant aux écoles, dans plusieurs endroits du territoire de Kabambare, elles sont fermées. Tous les enfants et leurs parents ont fui dans la forêt ou vers d'autres villages. C'est le cas dans le Bangubangu Lulindi, à Bangubangu Babuyu, à Bangubangu Bahombo, où les opérations militaires sont en cours. La société civile de Bikenge plaide non seulement pour une assistance aux déplacés, mais aussi pour la cessation des hostilités afin que la paix revienne dans cette zone. Kindu, Mathieu Ilunga Chambua Monachebe, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le Lubero, Nord Kivu, deux présumés criminels arrêtés par la population fin octobre dans la localité de Kamandi et Rémi Ofardessé sont à nouveau libres et menacent à nouveau la population et les activistes des droits humains dans la région. Dans un communiqué publié hier, le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement, CIDOP, demande aux responsables de la justice militaire d'enquêter sur le cas de ces présumés criminels qui détenaient l'arme qui appartenait à un policier tué en plein service quelques semaines avant leur arrestation. Cette organisation pense que les FARDC auraient contribué à l'évasion de ces hommes. Deli Kumbambu, secrétaire exécutif de CIDOP, au micro de Rosalie Zawadi.
Contre toute attente, ces présumés criminels sont actuellement libres et ils sont en train de circuler dans les environs du village de Kamandi et ils ont opéré dans l'un des quartiers de Kamandi. Ils ont pillé l'argent, ils ont emporté des biens de valeur dans un domicile. Ils ont tiré plusieurs balles sans être inquiétés, ils se sont soustraits après. Et c'est pourquoi nous demandons à l'auditeur militaire supérieur près la Cour opérationnelle du Nord Kivu de déclencher des enquêtes sur l'invasion de ces deux criminels et de sanctionner certains officiers qui ont coopéré dans cette invasion. Et nous demandons aussi à la population de Kikubo Kamandi, Kitotokwa, Buroyo, de continuer à coopérer avec les services de sécurité de manière à pouvoir déceler ce présumé coteur pour qu'il puisse être réarrêté et sanctionné conformément à la loi.
En réaction, le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud explique que les FARDC ne sont pas impliqués dans l'évasion de ces présumés criminels. Le lieutenant Jules Ngongo indique que ce sont des Maïmaï qui ont attaqué la prison de Lubero le 12 novembre dernier qui ont libéré ces bandits. Il assure que les FARDC sont déterminés à mettre un terme à l'activisme de tous les malfrats dans cette zone. Dans l'actualité, notez aussi qu'un véhicule avec immatriculation de l'administration publique congolaise est bloqué depuis environ une semaine par les autorités ougandaises du district d'Arua. Il s'agit d'un véhicule qui était utilisé par le ministre provincial des Finances en Ituri, selon la société civile d'Arua et des sources concordantes. Les autorités ougandaises exigent au gouvernement provincial de l'Ituri la remise de tous les véhicules volés en Ouganda, dont certains se trouveraient en territoire congolais d'Arua. Isaac Remo.
La société civile d'Arua, qui cite les autorités territoriales, affirme que ce véhicule du ministre provincial des Finances est entré officiellement au district ougandais d'Arua pour la réparation. Cependant, l'entretien tient que la police ougandaise s'est déployée au garage pour confisquer les véhicules. Ces autorités exigent au préalable la remise de tous les véhicules volés en Ouganda, dont l'un se trouverait au village congolais d'Ondolé à une dizaine de kilomètres d'Ariwara et l'autre à Arua Centre. La société civile d'Arua s'insurge contre cette démarche des Ougandais qui ne favorise pas les relation de bon voisinage entre les entités frontalières des deux pays. Son président Innocent Magoudé.
Le ministre n'a jamais volé de véhicule. On remet le véhicule du ministre qui a traversé voie normale. S'ils disent la réparation, c'est combien le ministre paye. Et là, on s'arrête là-bas. C'est un voleur. Il y a la justice qui est là. Les Congolais ne traversent jamais pour aller voler les véhicules en Ouganda. Ce sont les Ougandais eux-mêmes qui, selon leur dire, jouent leur véhicule. Ils ont toujours des complicités des Ougandais. En fait, passer un véhicule, on vient vendre.
Des sources locales indiquent qu'une délégation congolaise du territoire d'Arua s'est rendu cette semaine à Arua pour réclamer la restitution de ces véhicules mis en vain. Contacté, le gouverneur Abdallah Penembaka dit qu'il n'est pas encore saisi de cette nouvelle. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis cette restitution hier à Kinshasa des recommandations issues des 8e journée du chargeur africain tenu à Accra au Ghana du 22 au 25 novembre dernier, journée organisée par l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA dont la RDC fait partie à travers l'Office de gestion du fret maritime au GFREM. Patient Saïba, son directeur général, explique que plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises, notamment faire de l'Union des conseils des chargeurs africains un corridor économique et les 19 membres se sont également engagés à élargir le champ d'application de l'UCCA en Afrique australe et l'Afrique du Nord. Patient Saïba au micro de Paul Matendo.
Nous sommes allés au-delà des discours. Il y a plusieurs opérateurs économiques qui sont venus de plusieurs pays pour pouvoir exposer les produits africains, Made in Africa. Nous voulons réellement une véritable union économique au niveau de l'Afrique, à l'échelle continentale. Ça a été mentionné et c'est une volonté exprimée par tous les conseils des chargeurs. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Afrique est réellement en train de prendre conscience qu'elle doit se développer. Elle doit se développer par ses propres forces, par ses propres outils et par la volonté que nous devons combiner ensemble. Nous allons donc faire le lien entre les conseils des chargeurs africains de l'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi que les conseils des chargeurs de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Nous voulons que les conseils des chargeurs puissent jouer un rôle capital de manière à amener les pays africains à l'industrialisation.
En Bandaka, signalons la fin hier du remous social qui a régné dans la ville depuis deux jours. En cause, le refus d'encaisser la coupure de 10 000 francs congolais par les opérateurs économiques et les institutions financières. Le responsable de la Banque centrale qui a assisté à la réunion élargie du comité provincial de sécurité tenu à cet effet a indiqué que cette coupure a toujours cours légal. Ainsi, la BCC a été chargée de sensibiliser la population à travers les médias locaux. Sensibilisation qui a porté ses fruits. Janine Intombi, gouverneur intérimaire de l'Équateur qui a présidé la réunion, explique au micro de Paul Richard Malengela.
Nous avons d'abord découvert que ce n'était qu'une spéculation qui a bouleversé un peu l'attention de la population. Comme nous avons réagi si tôt, nous avons chargé à la fin de notre comité de sécurité où nous avons invité les responsables des institutions bancaires que la BCC, qui est l'autorité monétaire, puisse remettre la population en confiance par rapport à la souveraineté monétaire de notre pays. Et nous avons aussi chargé des responsables des opérateurs économiques afin de sensibiliser tous les opérateurs économiques d'utiliser la monnaie car la monnaie est valable. Il n'y avait pas un problème de démonétisation de ces billets de 10 000 francs. Et il n'y a aucune tension par rapport à la situation monétaire pour les billets de 10 000 francs congolais.
Actualité Afrique Monde.
L'Union africaine réunit ce lundi à Addis Abeba ses partenaires, à savoir l'Union européenne, le ACR et l'OIM. C'est pour évoquer la question des évacuations des migrants bloqués en Libye. Cette réunion fait suite à l'électrochoc provoqué par un reportage de la chaîne de télévision américaine CNN sur une vente aux enchères des migrants qui a entraîné une cascade de réactions politiques et diplomatiques. L'Union africaine, comme d'autres organisations, affiche depuis sa volonté de se mobiliser pour secourir les migrants qui croupissent dans des centres de détention libyen. La réunion devrait donc être la première d'une longue série. Et puis, la Corée du Sud et les États-Unis ont donné le coup d'envoi ce lundi à leur plus important exercice aérien conjoint, manœuvre qualifiée par le Nord de provocation totale quelques jours après le tir par Pyongyang d'un puissant missile. L'exercice vigilant, qui concerne environ 230 avions, dont des chasseurs et des dizaines de milliers de soldats, a commencé cette matinée et doit durer 5 jours selon l'armée de l'air sud-coréenne.